1 Pierre, première épître de Pierre, tout le premier chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger, dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Tout ça, ça se trouve aujourd'hui en Turquie. Élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ, avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore. Aussi tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Sur ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Ils recherchaient à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ qui était présent en eux. Quand il attestait par avance les souffrances réservées au Christ et la gloire qui les suivrait, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui transmettez ce message. Que maintenant les prédicateurs de l'Évangile vous ont communiqué sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi l'Esprit éveillé pour les discernements nécessaires, mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois du temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saint, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence, non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère qu'on pourra en tirer beaucoup de choses, justement. Le premier mot par lequel Pierre s'adresse aux croyants, c'est le mot « élu ». Élu, vous qui êtes élus, qui sont les élus, ceux qui écoutent cette parole de Dieu. Car cette parole de Dieu nous parle précisément d'un projet que Dieu avait en tête avant la création. En tête, ou plutôt, devrais-je dire, dans son cœur. C'est pour ça qu'il y a le mot « élu ». Ce que nous recevons dans l'Évangile, c'est quelque chose qui était avant la création, avant que nous existions. Donc c'était déjà une élection dans la pensée de Dieu, ce salut que nous avons reçu. Il y a une histoire juive très intéressante à propos de Genèse 1:26. Vous savez, dans Genèse 1:26, Dieu, avant de créer l'homme, dit quelque chose. Il dit « Faisons l'être humain à notre image. » Et beaucoup d'exégètes se disent « Mais à qui parlait-il ? Il n'y a encore personne créé. À qui dit-il « Faisons » au pluriel, « Faisons l'homme ». Alors certains rabbins disent, oui, il a parlé aux anges. Il leur aurait demandé leur avis. Alors là, ça a été une discussion entre les anges, qui étaient très acharnés parce que les anges disaient, certains disaient, oh non, voilà, faut pas créer l'être humain, il va faire des choses horribles, horribles sur la terre. Et d'autres anges disaient, mais non, il est capable aussi de bonté, de pitié. Et ça discutait, ça. Puis tout d'un coup, Dieu est revenu, il a dit « Arrêtez la discussion, là, l'homme est créé. » Donc il a passé outre aux avis des uns et des autres et il a mis tout le monde devant le fait accompli. Ça y est, il est là. Cette histoire est vraiment très intéressante, même s'il n'est pas dans la Bible, elle est vraiment très intéressante. Car c'est exactement comme ça que ça fonctionne toujours encore dans nos têtes. Ça valait la peine d'être créé ? Il y en a qui arrivent à la conclusion que non, il valait mieux qu'il ne soit pas créé, il se suicide. Ça existe toujours, cette discussion. Vous voyez, les histoires comme ça, ça raconte des choses profondes. Eh bien, Dieu, il nous met devant le fait accompli. Je t'ai créé, et si je t'ai créé, c'est parce que j'ai un projet d'amour. Et ce projet d'amour, rien dans la création ne permet de le savoir, ni les anges même ne pouvaient pas te le dire. C'est au fond de moi, un secret avant la création. Et ce secret, maintenant, il est révélé depuis que Jésus est venu. Effectivement, la première chose pour laquelle Pierre remercie Dieu au verset 3, c'est « Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître ». Sa première qualité de Dieu qui est exprimée dans sa grande miséricorde. On ne parle pas beaucoup de miséricorde, vous savez, aujourd'hui. Ce n'est pas un mot français moderne, temple l'homme de tous les jours, mais c'est un très beau mot français, la miséricorde.
J'entends le mot misère. Je ne sais pas si c'est vrai comme étymologie, mais j'entends le mot misère. J'entends le mot corde, le cœur. Dieu, c'est un cœur qui s'attache à la misère
de l'homme et qui ne lâche plus parce qu'il a du cœur pour cet homme. La miséricorde de Dieu, il est à l'origine de notre création parce qu'il y a un plan en lui que les anges découvrent seulement maintenant que l'homme est sauvé par Jésus-Christ. Vous avez remarqué comme moi, que Pierre dit que les anges voudraient bien, les anges découvrent par nous aujourd'hui l'évangile. L'évangile communiqué, verset 12, communiqué sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ce qui était donc le destin, le projet éternel de Dieu, gardé secret avant la création, il est révélé. C'est l'évangile. Que tu es sauvé. Toi, être humain, tu es sauvé. Et les anges regardent. Regarde les croyants, les chrétiens, pour voir ce qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'eux font partie de la création, mais nous recevons quelque chose qui était avant la création, l'amour de Dieu. Avant la création, la miséricorde de Dieu. Ce projet, c'est que Dieu nous sauve par l'agneau, versant son sang. Le sang de cet agneau est mentionné deux fois, au verset, tout de suite au début, au verset 2, nous avons part à l'aspersion de son sang. Et puis, au verset 19, vous avez été racheté par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors vous ne pouvez pas être croyant sans comprendre l'importance décisive et éternelle du sang de l'agneau de Jésus, de Dieu, qui est Jésus. Effectivement, ça ne rentre plus tellement dans nos conceptions, dans notre culture actuelle, mais pour un juif de l'époque, c'était très compréhensible, très très compréhensible, tous les ans. Tous les ans, un agneau était mis à part dans chaque famille. On le mettait à part pour qu'aucun de ses os ne se casse en étant avec le troupeau. Et au moment de la Pâque, on l'égorgeait et on voyait le sang. Chaque enfant grandissait comme ça en voyant le sang d'un agneau couler à Pâques. Et après, il le mangeait. Après l'avoir égorgé au temple, il le mangeait en famille. Parce que c'était comme ça. Par l'agneau sur les linteaux des portes en Égypte, que les familles juives étaient protégées de la mort. Et puis après l'avoir mangé, cet agneau, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été délivrés d'un endroit où c'était certain qu'ils allaient mourir tous. Ils allaient tous être génocidés en Égypte, puisque tous les bébés et filles étaient tués. Donc ils ont échappé à un génocide par un agneau. Et ils ont célébré ça tant qu'il y avait le temple, il y avait cet agneau chaque année à Pâques. Donc ça parle à un juif. Quand on lui dit, Jésus c'est l'agneau de Dieu, son sang vous a racheté. C'est une image que nous ne pouvons pas enlever de la Bible, même s'il ne fait pas partie de notre culture. Nous pouvons aussi considérer le fait que quand un sang est versé. C'est définitif. La personne ou l'animal dont le sang est versé, la vie est définitivement donnée. Vous ne pouvez pas remettre le sang dans la personne. Une fois qu'il est versé, il est versé. C'est ça aussi qui est dit dans cette image concernant Jésus. Sa vie est définitivement donnée. Il ne la reprend pas, il nous l'a donnée. Nous sommes au bénéfice par cet agneau de ce projet de Dieu, le sang de l'agneau. Voilà pourquoi Nous sommes des élus. Dieu a accompli un projet en nous par l'Évangile. Un projet qui ne pouvait pas être déduit de ce qu'on voit dans la création. Parce que c'est plus en amont, c'est dans le cœur de Dieu de toute éternité, la miséricorde qui nous donne par le sang de l'agneau versé pour nous. Et au verset 2, en fait, en grec, ça se traduit littéralement, nous avons part à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous avons part à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors ça, c'est encore un autre événement que les Juifs connaissent. Vous trouvez ça dans Exode 24. Ils sont arrivés au Sinaï, il y a eu une alliance entre Dieu et les Juifs. Moïse a été celui qui a fait l'intermédiaire entre Dieu et les Juifs. Et il a pris du sang d'un agneau, il a mis la moitié de ce sang sur l'autel, et l'autre moitié, il a aspergé les gens comme ça, avec le sang. Il a dit, voici le sang de l'alliance. Il a aspergé les gens de sang. Et c'était l'alliance, ça. Et là, ils ont tous dit à Moïse, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. C'est l'obéissance, le sang amène une obéissance. L'obéissance que Jésus a exprimée toute sa vie, elle est transmise par son sang. Nous sommes engagés dans la même obéissance que Jésus. Au verset 10, Pierre parle des prophètes qui ont annoncé ces choses. Ce que nous croyons est tellement incroyable, puisque ce n'était pas dans la création, ça ne se voit pas écrit dans la création, c'est un amour de Dieu éternel qui s'est manifesté à nous dans la mort, la résurrection de Jésus. C'est tellement incroyable que Dieu a pris soin de faire annoncer ces choses à l'avance, des siècles avant que Jésus arrive, il y avait les prophètes qui annonçaient ces choses. Et les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux, dit Pierre. Et ils annonçaient les souffrances du Christ, la gloire qui s'en suivrait. Ils annonçaient cela. Mais ils ne voyaient pas l'époque, ils ne voyaient pas dans quelles circonstances. Mais ils étaient sûrs que ce qu'ils avaient dit allait se produire un jour. Et c'était tellement merveilleux qu'ils auraient voulu savoir plus précisément, parce qu'ils voyaient le tableau général, mais ils ne voyaient pas les différentes étapes que nous voyons maintenant. Jésus est venu, les prophéties sont accomplies, il y en a encore d'autres qui vont s'accomplir. Nous sommes dans le processus de l'accomplissement, ce que les prophètes n'avaient pas. Nous sommes donc privilégiés par rapport aux prophètes, mais cela aussi doit nous faire prendre conscience combien c'est précieux, la parole que nous avons dans l'Évangile. Jésus l'a dit aussi, de son vivant sur terre, il disait à tous ceux qui l'entendaient, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez et d'entendre ce que vous entendez, car beaucoup de prophètes auraient voulu entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Mais vous, vous l'entendez. Vous voyez. » Cet évangile est donc une parole qui nous fait naître d'en haut, dit Pierre, par la résurrection de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui s'appuie sur un événement qui a eu lieu, qui ne peut plus être enlevé, c'est Jésus est ressuscité. C'est réel notre salut, parce que la résurrection est réelle. La résurrection manifeste qu'il y a la vie qui enlève la mort. La vie qui vient de Dieu a enlevé la mort. Nous connaissons que la vie, que la mort enlève. Mais l'Évangile nous communique la vie qui enlève la mort.
Et c'est parce que Jésus voulait communiquer cette vie qu'il a déçu les gens. Tellement souvent. Tellement souvent, il les décevait. Après la multiplication du pain, ils étaient des milliers, à vouloir le couronner roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débiné et allé tout seul s'isoler dans la montagne. Il les a déçus. Dans la barque, dans la tempête sur le lac de Galilée, les disciples sont dans l'angoisse. Ils vont chavirer. Et lui, il dort. Ils sont déçus. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, envoient dire à Jésus, qui était assez éloigné de l'autre côté du Jourdain, « Celui que tu aimes est malade, Lazare. » Jésus est resté encore 2 jours là-bas. Pendant ce temps, Lazare est mort. Elles ont été déçues. Les disciples, au jardin de Gethsémané, ont été déçus parce que Jésus s'est laissé arrêter, lié, attaché, comme un agneau. Il aurait pu montrer enfin son pouvoir. Non. S'est laissé lié, attaché, humilié et tué. Mais toutes ces déceptions, c'était pour une plus grande joie que celle que nous aurions fabriquée nous-mêmes. Pierre dit une joie qui ne peut même pas être exprimée parce que ça dépasse tout langage, la joie de la résurrection. Et de fait, un texte de l'évangile dans Marc nous dit les femmes n'ont rien dit après la résurrection. Les femmes qui ont vu le tombeau vide et qui ont vu l'annonce, entendu les anges annoncer la résurrection, elles n'ont rien dit. Elles avaient peur. Ça dépasse l'imagination. C'est par cette résurrection que nous avons une naissance d'en haut. Voilà pourquoi Jésus a eu raison de décevoir tant de fois les gens. Il a mieux à nous proposer que ce que nous avons imaginé. Alors, je vous dis peut-être, vous dites peut-être, oui, mais on ne voit pas, je ne sens pas tout ça, je ne vois pas tout ça. Ben oui, Pierre dit, ça va être révélé. Le salut est sur le point d'être révélé parce que l'apparition de Jésus, glorieux dans sa gloire, est toute proche. Voilà ce que dit Pierre. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous avons reçu de Dieu, il faut toujours encore la foi, il faut toujours l'espérance. C'est pas visible, mais c'est réel. C'est réel. Pierre emploie ici l'image de héritage. Supposons que vous avez un oncle qui vous a fait héritier de son château, de son parc et de ses terres. Voilà. Vous avez une immense fortune et vous roulez toujours en 2 chevaux, puis vous avez votre SMIG. Mais vous savez que lorsque l'oncle mourra, vous allez habiter dans un château. Donc c'est à vous. C'est réel, mais ça ne se voit pas. Il existe bien des choses comme ça qui sont réelles, mais qu'on ne voit pas pour le moment. C'est ce que Pierre nous dit. Ça va devenir visible. Ayez toute votre espérance dans ce salut qui va vous être manifesté quand Jésus apparaîtra. Ce sera votre salut. Et c'est sur le point de se produire. Il a dit ça il y a 2000 ans. Maintenant, 2000 ans ont passé, est-ce que vous croyez que ce serait raisonnable de dire « Oui, mais c'est encore loin. C'est encore loin. » Si Pierre l'a dit comme étant imminent, il y a 2000 ans, c'est écrit il y a 2000 ans ce qu'on a écouté. Alors aujourd'hui, le simple raisonnement devrait nous faire dire « Donc c'est encore plus imminent maintenant. Ce que Dieu nous a donné, nous en avons quelques aperçus de temps en temps, mais nous n'avons pas la réalité de l'ensemble de notre salut. il va être manifesté. Donc j'ai employé l'image de quelqu'un qui a un oncle, mais nous, nous n'avons pas un oncle dans le ciel, nous avons notre Père. Nous avons été régénérés, nous sommes nés du Père. Pierre dit, vous invoquez comme Père, donc c'est notre Père, Dieu, c'est Dieu. Et il va nous donner l'héritage qui est, lui est propre, qui est au plus profond de lui-même, et qui était avant même que le monde soit créé, une vie d'amour. Car c'est avec ça que Pierre finit. Maintenant que vos cœurs sont purifiés par cette vérité que vous avez acceptée, vos cœurs sont purifiés, vous êtes capables d'aimer. Vous êtes capables d'aimer comme Jésus a aimé. Vous vivez maintenant un projet qui est d'aimer. Alors sans hypocrisie, il y a plusieurs choses qui sont dites. Sans hypocrisie, avec constance.
Et puis quoi encore ? C'est à la fin.
Sans hypocrisie, avec confiance.
Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau. Donc sans hypocrisie, avec constance.
Ah, ça n'apparaît pas dans cette traduction-là.
Sans hypocrisie, avec confiance, avec constance. C'est déjà pas mal parce que au bout d'un moment, on se lasse d'aimer les gens quand on connaît leurs défauts. Mais voilà, avec Jésus, il y a un amour qui nous permet d'aimer avec constance, avec les défauts qu'on découvre au fur et à mesure. Parce que Jésus nous aime aussi avec constance, avec tous les défauts qu'il voit bien en nous. Et il nous aime comme ça. Aimer avec constance, purifié par la vérité. Nous pouvons aimer d'un cœur pur, voilà, d'un cœur pur.
Il faut que le cœur soit purifié pour qu'on puisse aimer. Parce que ce qui nous empêche d'aimer, c'est un cœur impur. Les cœurs purs, c'est ceux-là qui aiment. On croit souvent l'inverse, hein, des gens qui sont purs, ils se séparent des autres. Oui, ben ceux-là, ils n'ont pas pur. Sachez que si quelqu'un est pur, considéré comme pur, et qu'il n'aime pas les autres, ben, il n'est pas pur. Voilà. Parce que l'impureté, c'est ça qui empêche d'aimer. Le péché nous isole des autres. Ça aussi, c'est une fausse idée qu'on a dans la tête, que le péché, c'est humain. Non. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, peut-être on a oublié. Le péché, c'est pas ce qui nous caractérise comme humain. Le péché, c'est ce qui nous caractérise comme inhumain. Et c'est l'absence de péché qui fait qu'on est humain. Parce qu'on aime. C'est la pureté qui fait qu'on aime. Vous savez, quelqu'un à qui on a demandé de définir l'égoïsme, il a dit l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. Et en fait, on est tous comme ça. Parce que l'égoïsme ne nous touche que lorsque on est soi-même victime de l'égoïsme. Mais combien de fois on l'exerce ? Et ça ne bouge pas. Donc il faut vraiment un cœur purifié. Et ça, c'est le cœur de Jésus. Et c'est ce que Dieu fait. C'est le programme. On dit souvent que Jésus est mort pour nos péchés. C'est juste. C'est tout à fait juste. Mais on s'arrête, la Bible ne s'arrête absolument pas là. Elle installe un autre programme dans le cœur. Que, d'accord, il enlève les péchés, et puis il installe quoi ? Ben, il ne laisse pas du vide. Il installe l'amour. Son amour. C'est, pour vous faire comprendre ça, je vais employer une image. Ceux qui connaissent l'ordinateur, vous savez que On a des fichiers. Alors, supposons que votre vie, c'est un fichier avec votre nom. Un fichier d'un ordinateur avec votre nom. Et puis, vous pouvez changer le contenu du fichier. Et après, vous faites sauvegarder, enregistrer. Mais l'ordinateur vous demande, voulez-vous vraiment remplacer ce fichier-là par cet autre fichier ? Alors, vous cliquez avec la souris, oui. Alors voilà ce que Dieu fait. Quand il purifie notre cœur, il change le fichier où il y a marqué nos péchés, ou nos bonnes actions aussi, hein, des choses dont on est fier, des choses dont on n'est pas fier, tout ça c'est notre vie, et puis on se dépatouille avec ça. Ça c'est notre fichier. Dieu écrit amour, il écrit la paix, la joie, il écrit régénérescence, il écrit un nouveau programme. Et puis après que ce fichier est bien rempli, il clique sur notre nom, et puis faut-il remplacer, vraiment écraser ce fichier précédent par un autre? Oui, voilà, il installe un nouveau programme dans notre vie. J'ai oublié une chose, et ça, je n'ai peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais l'apôtre Pierre, dans cette épître, parle plusieurs fois des souffrances du Christ. Et il installe aussi le programme des souffrances du Christ, parce que celui qui aime va souffrir. Il souffrira des souffrances qu'il n'aurait pas connues s'il n'était pas chrétien. Les chrétiens connaissent les souffrances de tout être humain, comme tout le monde, mais ils connaissent aussi les souffrances liées au fait qu'ils sont les agneaux de Dieu, maintenant au milieu de ce monde, chargés de transmettre aux autres cette miséricorde de Dieu. Maintenant, une dernière chose. Pas trop long, ça va? Ça va se finir. Hein. Soyez rassurés, ça va se finir. Je vais juste illustrer le verset 21. Par Christ, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je relis ce verset. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà. Alors, par la mort de Jésus, nous avons reçu la foi. Et l'espérance, bon, je marquais que le mot foi. D'accord ? Par la mort, Jésus est venu vers l'être humain, par sa mort, sa naissance, sa mort. Il a transmis la foi. Je vais la donner à Michel, la foi. Voilà, c'est la foi de Michel. Hein. Jésus lui a transmis la foi. Voilà. Par sa mort, par sa venue dans ce monde, il t'a transmis la foi. Voilà. Maintenant, ce Jésus qui est mort, Dieu l'a ressuscité. On est encore dans cette période jusqu'à l'ascension, et à l'ascension, Dieu l'a élevé à sa droite. Donc la foi qu'il t'a donnée, elle repose maintenant en Jésus, que Dieu élève à sa droite. Donc je vais illustrer cela. C'est toujours la foi de Michel, hein. Mais Dieu ayant. Dieu ayant élevé Jésus, il prend la foi de Michel. Avec Jésus, il prend la foi de Michel et il va mettre cette foi en Jésus élevé à sa droite. Alors, vous êtes d'accord? La foi est maintenant en Jésus élevé à la droite de Dieu. Donc, elle est toujours à toi, Michel. Dieu ne l'a pas enlevé. Hein, il ne l'a pas enlevé, mais il a fait que cette foi qu'il t'a donnée ne repose plus sur toi. Elle repose sur Jésus élevé à sa droite. De telle sorte que si quelqu'un de nous veut maintenant savoir s'il a la foi, ce n'est pas en regardant en soi. Non, Dieu l'a mise en Christ élevé à sa droite. Donc si vous voulez savoir si vous avez la foi, regardez à ce que la Bible nous dit de Jésus. Que Dieu a élevé à sa droite.